franceinter.fr.
Le journal Bruno Duvic. Bruno, bonjour.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, comment est-ce possible? 700 victimes de l'attentat de Nice n'ont pas même pu déposer une plainte plus de 4 mois après le drame. Engorgement administratif. Nous serons à Nice au début de ce journal. Cela alors que la menace terroriste amène le gouvernement à créer un nouvel échelon dans le dispositif Vigipirate. Délit d'entrave à l'IVG. C'était autrefois des militants accrochés aux grilles des hôpitaux. C'est maintenant sur Internet que ça se passe. C'est l'analyse du gouvernement et du Parti socialiste qui crée un nouveau délit d'entrave à l'IVG. La droite et l'Église ne sont pas d'accord. Les conditions d'application du droit à l'avortement font donc encore débat en France. L'invité de ce journal sera le gynécologue, le professeur Israël Nizan. Comment les pays occidentaux seront-ils jugés dans quelques années? Leur impuissance s'est une fois de plus étalée hier à l'ONU à propos d'Alep en Syrie. La primaire socialiste, de la Belle Alliance Populaire. Top départ aujourd'hui avec les dépôts de candidature. Ils sont 8 candidats déclarés pour l'instant. Et le suspense Hollande continue. Dans ce journal encore, les licenciements économiques, les règles issues de la loi travail s'appliquent à partir d'aujourd'hui. Faut-il redouter une augmentation des licenciements? La bataille entre capital pour récupérer les déçus du Brexit. Paris n'est pas si mal placé. Un texte pour ceux qui veulent des funérailles laïques et gratuites, vous verrez cela. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno.
On a encore relevé des températures glaciales cette nuit.
Oui, au lever du jour, il faisait moins 7 degrés à Chablis et Metz, moins 9 degrés à Fontainebleau et encore moins 11 degrés à Mourmelon. La fraîcheur va rester d'actualité sur une bonne partie de la moitié nord. Cet après-midi, prévoyez seulement 4 degrés à Bourges, 6 degrés à Paris, Lille et Lyon, mais 12 degrés à Toulouse et Marseille, 15 degrés à Tarbes-Nice et 16 degrés à Ajaccio.
Le bon côté des choses, c'est qu'il fait beau.
Oui, nous sommes toujours sous l'influence d'un puissant anticyclone qui est vissé sur le pays, qui nous protège des perturbations, mais qui a aussi tendance à maintenir la pollution près du sol. L'après-midi sera donc ensoleillé à quelques exceptions près. De la grisaille risque de persister entre le Berry, le sud de la Bourgogne et le nord du Massif central. Sur la Normandie, des nuages bas venus de la Manche vont s'infiltrer et près des frontières du nord, le soleil va céder du terrain aux nuages qui envahiront le ciel.
Sébastien Léas, Météo France, à la fin de cette édition, nous irons à Rennes, festival des trans musicales. Et puis Tiger Woods, de retour sur les parcours de golf. Peut-il réussir son comeback? Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h.
France Inter.
Nous sommes 4 mois et demi après l'attentat de la promenade des Anglais à Nice. Il y avait eu 86 morts, des centaines de blessés. Et alors que l'année arrive à son terme, très peu de proches ou de blessés ont été indemnisés, seulement 10%. Plus surprenant encore, beaucoup de personnes, plus de 700, n'ont même pas pu déposer un dossier. C'est une information de nos confrères de France Bleu Azur. Leur invité ce matin était Stéphane Jiquel, l'un des responsables de la Fédération des victimes d'attentats, la FENVAC. Alors que se passe-t-il? Contrainte administrative. Il n'y a qu'un petit lieu pour porter plainte à Nice, car il faut déposer une plainte pour que l'indemnisation soit possible.
La plainte, elle a un but indemnitaire, c'est-à-dire de certifier finalement le récit de la personne, parce que il y a une vraie difficulté en termes de preuves. Comment voulez-vous prouver que vous étiez sur la prom à cet endroit? Donc on a dit, voilà, le fonds d'indemnisation a imposé comme condition de déposer plainte. Il y a 700 à 800 personnes qui n'ont pas encore à ce jour de plainte. C'est un véritable problème, puisque la caserne au Var peut traiter dans le dispositif actuel à peu près une trentaine de plaintes par semaine. Donc faites le calcul, c'est-à-dire qu'on est à 2 à 3 mois d'attente. Et oui, c'est une vraie difficulté.
Et vous pouvez pas alerter le ministre?
On a prévenu, bien évidemment, le cabinet du ministre. Mais il y a un engorgement. Écoutez, je pense qu'il faut l'interpeller lui, mais c'est une situation qui est extrêmement difficile et qui va prendre du temps et qui fait que finalement, les personnes qui sont rescapées avec un traumatisme psychologique sur la promenade des Anglais, eh ben, il y a simplement 10% de ces personnes qui sont reconnues comme victimes et qui ont reçu une première indemnisation.
Stéphane Jiquel au micro de Sébastien Germain de France Bleu Azur. Hier, la secrétaire d'État à l'aide aux victimes, Juliette Méadel, promettait une meilleure prise en charge des victimes. Manifestement, il y a du travail. Le fonds de garantie des victimes des actes terroristes doit se voir doter une mission de service public avec des objectifs en termes de délai de traitement. Et la menace terroriste n'a pas diminué, bien au contraire, depuis le 14 juillet dernier et l'attentat de Nice, à tel point que le gouvernement ressent le besoin d'étoffer le dispositif qui est devenu comme un label de notre époque, Vigipirate. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Une nouvelle échelle est créée qui s'appelle Urgence Attentat.
Oui, l'objectif était de revoir complètement les analyses des risques liés à des attentats, les cibles potentielles, les faiblesses les plus criantes, grandes villes, milieux rural. Comment prévenir? Comment se protéger en amont et après une première attaque? Ce sont les leçons évidemment de ce qui s'est passé en France, mais également en Europe et dans certains pays victimes d'attentats au quotidien. Les mesures actées hier à l'Elysée reconfigurent le plan Vigipirate en 3 niveaux opérationnels contre 2 jusque-là. Premier cas, celui de vigilance. Deuxième palier, sécurité renforcée et risque attentat. C'est le cas aujourd'hui. Et puis, urgence attentat, le niveau le plus élevé où une cellule de crise activée peut déclencher l'arrêt du métro dans les villes concernées, la fermeture d'axes routiers, déconfinement scolaire, etc. et un déploiement massif de forces de l'ordre civiles et militaires. Le nouveau plan conçu par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale qui dépend de Matignon a dû développer de nouveaux plans spécifiques et confidentiels pour les risques en matière de cyberattaque et de drones. C'est le cas également pour tout ce que l'on appelle le NRBC, nucléaire, bactériologique et chimique.
Merci Emmanuel Leclerc. Nous étions à Nice pour commencer ce journal. À Nice encore, il y a l'histoire de ce petit garçon né le 3 novembre dernier et qui devait s'appeler Mohamed Merah, comme le tueur de Toulouse. La mairie de Nice avait saisi le parquet, apologie du terrorisme, choix manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Les parents renoncent, a-t-on appris ce matin, et d'après le parquet, le choix du prénom Mohamed avec ce nom de famille n'avait rien de militant. Ils n'avaient pas fait le rapprochement. Voilà un débat parlementaire qui ne serait sans doute pas autant médiatisé sans les échanges Juppé-Fillon autour de l'avortement la semaine dernière. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, une proposition de loi socialiste qui étend à certains sites internet le délit d'entrave à l'IVG, interruption volontaire de grossesse, en cause des sites internet qui se présentent comme des sites d'information et qui pratiqueraient en fait la désinformation. Avec ce texte, il s'agit de consolider le droit des femmes à disposer de leur corps, dit le gouvernement et le Parti socialiste. C'est une restriction à la liberté d'expression, estiment de leur côté l'Église et le parti Les Républicains. Véronique Julia, le débat a commencé ce matin à l'Assemblée.
Oui, vous savez qu'il y a des années, les opposants à l'avortement s'enchaînaient aux grilles des hôpitaux. C'est pour ça qu'avait été créé en 1993 le délit d'entrave à l'IVG. En 2016, le gouvernement veut s'adapter à la réalité numérique, car c'est désormais sur les sites internet que les résistances s'expriment. Certains affichent la couleur et disent clairement qu'ils sont hostiles à l'IVG. D'autres sont plus sournois. Et c'est à eux que la proposition de loi veut s'attaquer, car ces sites-là avancent masqués. La ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, l'a répété ce matin dans l'hémicycle. Sous une apparente neutralité, il ferait tout pour dissuader les femmes et les culpabiliser.
Chacun est et reste libre d'affirmer son hostilité à l'avortement, sur Internet ou ailleurs, autant qu'il le veut, comme il le veut, à condition de le faire en toute honnêteté. Car la liberté d'expression ne peut se confondre avec la manipulation des esprits. La liberté d'opinion n'est pas le droit au mensonge. Tromper délibérément des jeunes filles et des femmes, comme le font aujourd'hui les groupuscules anti-IVG de la toile, ne saurait donc être toléré.
À la tribune ce matin, les députés, les Républicains qui sont hostiles au texte ont dénoncé le procès qu'on leur fait. Ils sont favorables, disent-ils, au droit à l'IVG. Mais là, c'est d'après eux la liberté de penser qui est en cause. Pour le député des Bouches-du-Rhône, Christian Kert, on doit pouvoir dire qu'un avortement, c'est compliqué. C'est ce que font ces sites et ils ne voient pas où est le mal.
Sur un sujet aussi complexe et sensible que l'IVG, le traditionnel binaire pour ou contre est particulièrement réducteur. Qui peut prétendre, sur un sujet de cette nature, à la neutralité ? Affirmer, par exemple, que l'avortement a des conséquences physiques et psychologiques que vous niez, est-ce une allégation faussée ?
Et la proposition de loi prévoit pour ce délit d'entrave numérique 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Le texte est soutenu par l'UDI.
Bonjour, professeur Israël Nizan.
Bonjour.
Gynécologue responsable du pôle mère-enfant au CHU de Strasbourg. Il est bienvenu, ce texte. Il faut clarifier les choses.
Il était nécessaire, car de très nombreuses femmes qui se trouvent dans le dénuement et souvent l'isolement, se tourne vers Internet pour obtenir des informations sur l'IVG. Et les sites qui sont référencés en premier sont des sites qui ne dévoilent pas leur objectif, objectif qui est de dissuader les femmes. Et on les dissuade comment ? En leur disant des choses fausses. On leur dit « tu risques d'être stérile, tu risques des dégâts physiques sur ton corps ». Or, ceci est faux. Le Collège national des gynécologues obstétriciens sort la semaine prochaine une étude de toute la littérature mondiale sur l'interruption volontaire de grossesse quand elle est faite en milieu médical, qui montre qu'il n'y a pas de stérilité consécutive à la fécondation in vitro, à l'IVG, qui montre qu'il n'y a pas de dégâts physiques possibles, qui montre qu'il n'y a pas de dégâts psychiatriques, et qui dit sur les problèmes psychologiques que peuvent éprouver certaines femmes, il y a assez peu de documents scientifiques. On est en manque de recherche sur ce sujet qu'il faudra investiguer.
La question de l'information, c'est un de vos combats, on y reviendra. Diriez-vous, professeur Nizan, qu'il y a un climat qui est à la fragilisation de ce droit à l'avortement aujourd'hui?
Eh bien, en écoutant le débat ce matin, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, reconnaissent désormais le droit à l'IVG des femmes de notre pays.
C'est le cas depuis longtemps, non?
C'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que c'est un droit qui, au hasard des événements politiques, peut être, et on l'a vu aux États-Unis, en Espagne, en Pologne, peut être mis en question. Et je pense que dans notre pays, je ne vois pas ce droit mis en question. 95% des femmes que nous voyons sont favorables, et celles qui ne sont pas favorables disent « je n'y suis pas favorable pour des raisons religieuses, mais pour ma fille quand même, faut pas charrier ». Donc, tout le monde se rend compte qu'avant que l'IVG ne soit possible, c'était des femmes qui mouraient, et qu'il y en avait 300 qui mouraient, une par jour. Donc, ceci s'est terminé. Depuis 1975, je n'ai plus vu une femme mourir à cause d'une IVG, et surtout, il n'y a pas de conséquences physiques, il n'y a pas de stérilité. Alors, ça ne m'empêche quand même pas de dire que la meilleure IVG, c'est celle qu'on a prévenue.
Oui. Avant de donner la parole à Véronique Julia, cette question, parce qu'au fond, il y a deux arguments. Il y a d'un côté ceux qui dénoncent un climat de culpabilisation, et d'un autre côté ceux qui disent « mais on ne peut pas banaliser un acte comme l'IVG ». Que dites-vous ?
Toujours au milieu, je pense que c'est scandaleux de vouloir culpabiliser une femme qui est dans cette situation-là, parce que souvent, les heureux événements de sa vie de femme et de mère ne pourront survenir ultérieurement que parce qu'on a été là avec elle à ce moment de détresse-là.
Oui.
Mais en même temps, banaliser l'IVG, ce n'est pas non plus bien. Il y a des gens qui estiment que l'IVG peut s'assimiler à une forme de contraception. Et là, je ne suis pas d'accord. Je pense que faire ce qu'il faut pour ne pas avoir de grossesse non prévue et donner les moyens aux femmes pour éviter ce petit chemin-là, pas toujours un moment agréable, ouais, et même souvent un moment désagréable, quelle que soit la manière dont les médecins accueillent, je trouve que la banalisation de l'IVG, c'est une erreur, et je constate auprès de certaines jeunes femmes que le corps et le droit à l'IVG sont considérés comme des choses subalternes et que on peut véritablement faire des IVG et les multiplier. Elles, d'ailleurs, elles nous disent, quand on leur fait remarquer, qu'elles sont déjà venues plusieurs fois pour une IVG, et d'ailleurs, c'est mon droit.
Véronique Julia.
Vous dites que tous les politiques reconnaissent aujourd'hui le droit à l'IVG. Il y a deux ans, il y avait quand même eu une tentative de déremboursement de la part de certains députés de droite.
Il y avait eu une tentative de déremboursement qui se imaginait qu'on pourrait déterminer quelles sont les IVG qu'on rembourserait et quelles sont celles qu'on ne rembourse pas. Bonjour, le travail à faire, impossible. Mais je note que, au fur et à mesure qu'on s'est éloigné de 1975, les réticences sur l'IVG et sur ce droit fondamental des femmes ont disparu. Je ne suis pas de ces imprécateurs qui disent que le droit à l'IVG dans notre pays est menacé. La plupart des représentants politiques qui s'expriment aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et je trouve que c'est un élément très positif que ces débats aient pu avoir lieu, alors que certains demandaient au président de la République d'empêcher ce débat. Ce débat a lieu, et tous les représentants politiques disent, premièrement, je suis favorable au droit à l'IVG. Eh bien, moi, je suis très content qu'ils viennent tous l'affirmer.
Est-ce que l'information est suffisante, notamment l'information des lycéennes que vous rencontrez régulièrement, des femmes jeunes et moins jeunes? Moins jeunes aussi, les deux questions.
Nous n'avons pas appliqué la loi de 2001 qui prévoit 3 heures d'information à la vie sexuelle et affective depuis l'âge de 4 ans. Nous en avons été empêchés par des lobbies religieux qui estimaient qu'il s'agissait d'une affaire de famille. Or, ce n'est pas une affaire de famille. Et le constat que nous avons des 15 000 IVG chez les moins de 18 ans dans notre pays, dont 10 000 seraient évitables, ce constat, pour moi, est terrible. Parce que dans les pays voisins, il y en a 3 fois moins. Et pourtant, les Françaises ne sont pas plus idiotes que les autres. Donc, nous n'avons pas fait de ce sujet un vrai sujet de santé publique. Et c'est les femmes de France qui payent l'addition. Et les adultes, c'est les adolescentes d'aujourd'hui. Ouais. Donc, pour moi, tout ce qui se passe sur l'IVG, les 220 000 IVG, c'est pas bien, c'est un constat de carence de notre pays. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait de ce point de vue.
En quelques secondes, autre sujet, c'est aussi aujourd'hui, professeur Nizan, la journée mondiale de lutte contre le sida. La question de l'information est la même, c'est-à-dire pas assez d'informations des lycéens. Quand on a 40 ans, comme c'est mon cas, on a l'impression que l'information, on l'a eu tout le temps, et qu'on peut pas ne pas savoir. Que dites-vous ?
Ce que je dis, c'est que ce sentiment-là que vous venez d'exprimer est radicalement faux. Interroger les lycéens comme ça vient d'être fait aujourd'hui, comment éviter le sida ? Ben, en prenant la pilule, pardi.
Ah oui.
Les lycéens sont désinformés. Comme nous ne les informons pas, ils s'informent grâce à la pornographie. Qui les désinforme ? Je dirais, à titre un peu de provocation, nous n'appliquons pas la loi sur l'information et la sexualité. Rassurez-vous, la pornographie s'en charge.
Merci Israël Nizan d'être venu dans les studios de France Inter ce matin. Adopté hier à l'Assemblée, une proposition de loi pour mieux accompagner ceux qui souhaitent des funérailles laïques pour leurs proches. Les mairies, dès lors qu'elles ont un minimum de place, seront obligées de mettre à disposition une salle pour la cérémonie et gratuitement. C'est le député socialiste de Meurthe-et-Moselle, Hervé Féron, qui est derrière ce texte. Qu'apporte-t-il de plus, sachant qu'il existe déjà une loi qui garantit en principe la liberté de choisir le caractère civil ou religieux de funérailles ?
On est dans une démarche qui permet la mise en œuvre de la loi avec une approche laïque, républicaine. 74% des Français décèdent à l'hôpital et plus de 30% de leurs familles demandent des obsèques civiles. Tout le monde n'a pas la possibilité d'organiser ces obsèques laïques. Il ne peut pas être seulement le rôle des entreprises commerciales de suppléer la République pour donner du sens au moment de la mort d'un proche. Et donc, cette proposition de loi permet la mise en œuvre de la loi. Il n'y a pas de démarche anti-religieuse, pas d'idéologie. Il n'y a qu'une démarche laïque. Il n'y a pas non plus de démarche anti-commerciale, si ce n'est que, effectivement, il me semble qu'il y a là la place pour le service public et l'accessibilité gratuite, parce que c'est prévu par la loi, conforme aux intentions de notre Constitution, aux intentions de notre République. Permettre à la famille un temps d'obsèques qui ne soit pas religieux si la famille le souhaite.
À propos recueilli par Aurélien Colli, le texte a donc été adopté hier à l'Assemblée. Il doit encore être examiné au Sénat.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Et que dira-t-on dans 10, 15, 20 ans de l'attitude de l'ONU vis-à-vis d'Alep ? Les quartiers Est, les quartiers rebelles, les opérations vont se poursuivre dans l'Est de la ville. Les quartiers rebelles, dit tranquillement ce matin le chef de la diplomatie russe. Opération, c'est-à-dire bombardement. L'armée syrienne est en train de gagner, ça c'est quasiment certain. Mais à quel prix ? 50 000 civils et les quartiers Est de la deuxième plus grande ville de Syrie ne sont plus qu'un vaste cimetière ou une prison. Quasiment plus rien à manger, quasiment plus rien pour se soigner. Il y avait une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU hier à New York. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour Bruno Duvic.
Et alors ? Alors rien ?
Oui, rien. Écoutez plutôt, si vous ne quittez pas cette zone très vite, vous serez anéanti. Vous savez que le monde vous a abandonné, ils vous ont laissé seul face à votre destin. Ce texte, Bruno, c'est celui qui a été largué avant les bombardements sur les quartiers est d'Alep pour inviter la population à fuir. Impuissance internationale, c'est vrai, depuis l'élection de Donald Trump et probablement jusqu'à son investiture fin janvier, la diplomatie internationale est de fait totalement paralysée par le vide. Un vide dans lequel s'engouffrent Moscou et Damas pour achever la reconquête du pays en écrasant à Alep toute forme de rébellion non djihadiste. Ainsi pour Bachar al-Assad, une fois qu'il ne restera que des djihadistes en face, plus aucun risque de devoir faire des négociations politiques pour mettre fin à la guerre. Dans toutes les villes reconquises jusqu'ici par le régime, la population qui est partie a dû rejoindre les zones contrôlées par Damas ou fuir par crainte de représailles. L'aide humanitaire, lorsqu'elle est administrée, ne passe de toute façon que par les autorités syriennes. Les combattants, eux, sont évacués vers Idlib, la dernière zone d'importance sous contrôle rebelle. Idlib qui pourrait donc devenir ainsi, après Alep, le dernier réduit à éliminer.
Il y a des pays où la paix progresse tout de même. La Colombie a ratifié l'accord de paix avec la guérilla des FARC. Il avait été rejeté par référendum. Le président Santos est passé par la voie parlementaire. En France, moins d'une semaine après la fin de la primaire de la droite et du centre, celle dite de la Belle Alliance Populaire, organisée par le Parti Socialiste mais ouverte à d'autres, eh bien elle commence officiellement aujourd'hui cette primaire primaire, les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 15 décembre. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour Bruno.
Pour l'instant, sur la ligne de départ, ils sont 8?
Oui, 2 écologistes, Jean-Luc Benamias et François de Rugy, 6 socialistes, Gérard Filoche, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, Arnaud Montebourg et Maxime Legrand, conseiller municipal d'opposition à Poissy. Sans oublier l'économiste Pierre Laroutourou, ex-PS, ex-Europe Écologie Les Verts, fondateur de Nouvelle Donne dont il a finalement été exclu. Il vient de se déclarer candidat. Que fera dans ce contexte François Hollande, candidat ou pas, via la primaire ou pas? Il ne laisse rien filtrer. Certains de ses proches l'encouragent à enjamber cette primaire. Hors de question pour Arnaud Montebourg au micro de Julie-Marie Lecomte.
Si un candidat socialiste se présente en dehors de la primaire, le sort que réserverait le Parti socialiste à une telle candidature serait l'exclusion. C'est la règle de la primaire. Si François Hollande décidait d'outrepasser la primaire, de se présenter au suffrage universel des Français contre la primaire, ce serait la fin, la destruction finale du Parti socialiste et du parti de Jean Jaurès.
Pour Arnaud Montebourg, la primaire est une arme de construction massive. Pour Jean-Luc Mélenchon, au contraire, elle est une école du vice. Mélenchon, candidat déclaré hors primaire, comme Artaud, Poutou, Jadot, Pinel, Macron. Et dire que la primaire de gauche était censée limiter les candidatures, pour l'instant, la belle alliance populaire n'est pas très belle. Pour le populaire, on verra.
Et à la liste des candidats à la présidentielle, au centre, faudra-t-il ajouter François Bayrou, lui qui juge dangereux le programme de François Fillon? Eh bien, le président du Modem dira d'ici fin janvier, début février, s'il est candidat. C'est ce qu'il a précisé lui-même ce matin. François Fillon cible des critiques maintenant qu'il est officiellement le candidat de la droite. Un autre homme juge son programme inquiétant. C'est le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, critique du discours de Fillon sur les fonctionnaires. Et ajoute Berger, il ne sera pas acceptable de faire revenir à 39 heures les fonctionnaires s'ils ne sont pas payés 39 heures. C'était l'une des mesures les plus contestées par la CGT dans la loi El Khomri. Et parmi les plus appréciés du patronat, les nouvelles règles pour les licenciements économiques entrent dans le Code du travail. Aujourd'hui, on peut licencier si les commandes ou le chiffre d'affaires baissent de manière significative par rapport à l'année précédente. Baisse pendant combien de temps? Cela dépend de la taille de l'entreprise. Cela va de 3 mois pour les plus petites à 1 an pour les plus grosses. Alors Bruce de Calzin, question simple, faut-il redouter une multiplication des licenciements dans les semaines et les mois à venir?
Il y a peu de doutes pour l'avocat Étienne Collin, avec un motif de licenciement économique inscrit désormais dans la loi. Ce sont d'abord les TPE et PME qui vont en profiter en remplaçant une rupture par une autre.
Il est probable qu'il y ait une conséquence directe sur les petites entreprises qui, pour éviter les licenciements économiques et les contestations au prud'homme par les salariés, avaient recours massivement au mode de rupture qui est la rupture conventionnelle du contrat de travail en cherchant un accord directement avec les salariés. Donc c'est beaucoup dans les petites entreprises qu'on va constater une remontée, me semble-t-il, des licenciements économiques.
Car le risque au prud'homme est désormais plus encadré et pourrait rassurer les chefs d'entreprise. Sauf que selon Jean-Michel Potier, vice-président de la CGPME, ce n'est pas dans l'ADN des petits patrons de licencier.
Pour un chef d'entreprise, c'est vraiment une situation personnelle, morale, très difficile à supporter que de devoir licencier un de ses salariés. Je pense que cette mesure, au contraire, va permettre d'une part de préserver l'emploi et d'autre part de le développer. Un chef d'entreprise pourra embaucher en sachant que s'il y a un retournement de conjoncture, eh bien la solution de réduction d'effectifs va être aujourd'hui sécurisée.
Mais il devrait coûter plus cher aux entreprises de licencier un salarié que de signer avec lui une rupture conventionnelle.
Dans la zone euro, le taux de chômage est à son plus bas depuis 7 ans. Il est sous les 10%, 9,8%. Il est en baisse régulière depuis 2013. Mais il reste à un niveau supérieur à ce qu'il était avant la crise financière. Il était alors à 7%. La bagarre pour récupérer les entreprises et salariés qui vont quitter Londres après le Brexit a bel et bien commencé. La France peut-elle tirer son épingle du jeu face à l'Allemagne, face à l'Irlande, face aux Pays-Bas? Ce sont les capitales financières qui se disputent les déçus du Brexit. La place de Paris, Europlace, vient de publier un rapport qui vante ses avantages comparatifs et elle va porter la bonne parole partout dans le monde, à Tokyo par exemple, dès lundi. Marion Lourd.
La place parisienne se débat de façon héroïque. C'est un grand banquier français qui se moque. Ici, nous sommes martyrisés par les taxes, dit-il. Alors convaincre les banques installées à Londres de venir à Paris, forget it, oubliez ça. Faux, répondent les représentants des banques et assurances parisiennes. Avec son rapport, Europlace veut battre en brèche les idées reçues sur la France. Gérard Mestralet préside l'organisation.
Par exemple, le taux d'impôt sur les sociétés françaises est le même qu'en Allemagne. Un dirigeant de grande banque internationale disait récemment que la législation du travail était aujourd'hui déjà plus flexible à Paris qu'à Francfort. après les lois Macron, El Khomri, mais il y a encore des progrès à faire. Et je sais que c'est une question qui va être discutée dans le cadre de la campagne électorale.
Parlons-en des élections. Pour profiter du Brexit, Europlace veut porter ses recommandations, notamment auprès du nouveau candidat Les Républicains.
Nous allons faire le tour de tous les candidats. Au vu de ce que nous connaissons, de son programme, il y a des éléments positifs. François Fillon a dit qu'il allait d'abord faire les réformes fiscales qu'il fallait, et ensuite ne plus y toucher pendant 5 ans. Ça, c'est de la visibilité, de la stabilité.
Positif aussi, selon Gérard Mestrallet, le licenciement économique facilité, réformer droit du travail et fiscalité. Sur ces objectifs, il tombe donc d'accord avec notre grand banquier qui conclut « Si la place s'équipe, elle a une chance énorme car personne n'a envie de vivre à Francfort ».
Le gendarme qui a tiré la grenade fatale à Rémi Fraisse n'a pas commis de faute au regard des règles d'engagement. En revanche, les instructions données aux militaires qui étaient à Sivens dans le Tarn lors de ces manifestations, ces instructions manquaient singulièrement de clarté. Voilà le rapport du défenseur des droits sur cette question très très sensible. Il semblait imbattable pour l'éternité et puis il est allé de misère en catastrophe. Le golfeur Tiger Woods tente un comeback à partir d'aujourd'hui. Il participe à un tournoi aux Bahamas. Cela fait plus d'un an qu'il n'a pas joué en compétition. Tiger Woods a entre autres subi 3 opérations du dos en 18 mois. Bonjour Fabrice Rigobert.
Bonjour.
Sa dernière victoire à Woods en tournoi, ça date de plus de 3 ans. Il est tombé à la 898e place mondiale. Est-ce qu'il peut redevenir le tigre qu'il était ?
J'ai envie de vous dire oui, qu'il battra le record de 18 titres du Grand Chelem détenu par Jack Nicklaus. Mais n'est-ce pas là le cri du cœur, celui des passionnés, désireux de revoir la légende au sommet ? Pete Bevacqua est le directeur général de la PGA, le prestigieux tour professionnel américain.
Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse jouer au plus haut niveau. Il est très bon, il peut certainement gagner un autre majeur. Il en a gagné 14. Il n'y a pas de raison qu'il n'en gagne pas d'autres. Les gens oublient qu'il reste jeune et qu'il a encore de belles années devant lui.
Les Américains ont pardonné les frasques du champion, oublié son douloureux divorce, en témoignent les Tiger qui descendaient des tribunes lors de la dernière Ryder Cup. Il en était le vice-capitaine. Mais il faut se faire une raison, même si Nicklaus a remporté son dernier titre à 46 ans, Tiger Woods, bientôt 41 ans, ne dominera plus, explique Christophe Muniesa, directeur technique national de la Fédération française de golf.
Qu'il soit de nouveau capable de remporter des titres à l'appel comme il a pu le faire par le passé, ça c'est véritablement très incertain. Parce que d'un point de vue physique, bien sûr, après ses très nombreuses blessures, et puis en valeur relative par rapport aux autres joueurs, les rookies tapent très fort et ils pourraient avoir du mal à avoir un jeu aussi compétitif d'un point de vue technique.
Les rookies, ce sont Jason Day, Jordan Spieth ou Rory McIlroy qui sont installés. Et puis il y a l'aspect psychologique, le tigre n'a peut-être plus le mental pour tenir la pression, tout simplement. Les mois qui viennent nous le diront.
Bon, ça se passe pour l'instant aux Bahamas. Merci beaucoup Fabrice Rigobert. Les hauts et les bas des sportifs, période faste pour 92 Français médaillés des Jeux Olympiques ou Paralympiques de Rio. Ils reçoivent aujourd'hui la Légion d'honneur ou l'Ordre du Mérite, promotion spéciale et cérémonie à l'Élysée. Ces statues sur le Pont des Arts à Paris avaient été très remarquées il y a quelques années. Le sculpteur sénégalais Ousmane Sow vient de mourir, il avait 81 ans. C'est un festival qui a la réputation de repérer certaines des grandes stars de demain. Les Transmusicales de Rennes ont ouvert leurs portes hier soir. Parmi les artistes, plus qu'espoir, mais pas encore grand public, une jeune femme de Charleville-Mézières, Fishback. Mathieu Culeron, c'est une pop sombre et synthétique, à la fois singulière et délicate.
La création des Transmusicales de Rennes porte bonheur. Après Stromae, Jeanne Hadid ou encore Paradis, c'est au tour de Fishback de représenter cette 38e édition. Un statut qu'assume parfaitement Flora, qui jouera jusqu'à dimanche dans la salle de l'air libre.
C'est vrai que les gens qui sont passés là sont des artistes que j'aime beaucoup. Et ouais, je suis honorée. Et on est arrivé ici il y a une semaine, on a répété et comme des fous. C'est pour ça aussi que je me retrouve avec une voix complètement éclatée aujourd'hui. Ça tombe vraiment mal, mais je sais que je serai peut-être portée par d'autres énergies ce soir, j'espère. J'étais assez sensible à la musique des années 80 parce qu'il y a une noirceur sur un fond dansant qui est en fait assez, qui me plaît beaucoup en fait. Ce paradoxe, cet écart-là me plaît beaucoup. Des textes très tristes avec des musiques très dansantes. L'audace qu'il y avait dans ces années-là me plaît. Cependant, j'ai jamais cherché à me dire tiens, j'ai envie de faire un truc qui ressemble à Desireless ou à Emile Image ou Rita Mitsoko. Pas du tout. Simplement, quand je me suis mis à composer, c'est ce qui est venu à moi.
Fishback, pour la première fois en groupe sur la scène de l'air libre au Transmusical de Rennes, un premier album à venir et déjà l'une des valeurs sûres de l'année prochaine. Ce soir, je t'aurai le thème.
les transmusicales de Rennes depuis hier et à suivre notamment sur France Inter. C'est la fin de ce journal.